Saint-Marc nous rapporte cette rencontre entre ce jeune homme riche. C'est Saint Matthieu qui dit qu'il est riche. Dans Saint-Marc, on s'en doute. Cette rencontre avec ce jeune homme avec Jésus. Jean-Paul II aimait beaucoup ce texte, et à chaque fois qu'il parlait à des jeunes, il connaissait l'Évangile. Et notamment, quand il est venu au Parc des Princes la première fois en France, il a commenté longuement, puis rentré dans un dialogue après avec les jeunes qui étaient là, au Parc des Princes à Paris, sur ce texte, sur cette rencontre. Parce que le fait qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans cette rencontre, la qualité de la question qui est posée. On me pose souvent des questions quand on rencontre les uns les autres. Je ne suis pas Jésus, hein. On me pose souvent des questions. Et c'est normal, c'est juste. Mais c'est rare que j'ai une question comme celle-là. Cet homme accouru, tombant au genou de Jésus, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Ce n'est pas seulement le fait de se tomber à genoux. L'attitude comme ça, mais la question, quoi. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie éternelle. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur la vie éternelle? Parfois, on me demande, lors de la messe, comment je suis devenu prêtre ou évêque. C'est intéressant, hein. Mais ça, c'est vraiment une question. C'est une question qu'on se pose tous, mais peut-être on n'explicite pas tout à fait comme ça. Et puis, il n'y a pas seulement la qualité de cette question, mais aussi les réponses, les premières réponses que ce jeune homme fait à Jésus. Jésus lui dit, tu connais les commandements. Et Jésus cite les premiers commandements du Décalogue, commets pas de meurtre, d'adultère, de vol, etc. Et droit dans les yeux de Jésus, cet homme lui répond, maître, mais il répond d'une manière respectueuse, maître, tout cela, je l'observais depuis ma jeunesse. C'est fort. Dire tout cela, je l'observais depuis ma jeunesse. Pas seulement, il n'a pas commis de meurtre, d'adultère, etc., mais derrière ne pas commettre de meurtre, il y a le respect de la vie. Par faux témoignage, il y a une qualité de parole qui n'est pas médisante, et encore moins qu'une calomniatrice. Et ça, cet homme qui demande le chemin pour la vie éternelle, il dit ça de manière franche, directe, sans hésitation. Oui, oui, ça je l'ai observé. Donc on sent qu'il a cherché, qu'il a d'une certaine manière réussi à observer ses commandements depuis sa jeunesse. Alors il se passe quelque chose que seul Marc aussi nous rapporte. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Je pense qu'il y a de l'émotion dans la démarche du jeune homme qui vient vers Jésus, se met à genoux et pose sa question. Parce que c'est vraiment sa vie qui est en jeu, en fait. Mais il y a une émotion encore plus forte quand vous avez Jésus devant vous et que vous avez eu ce début de ce dialogue. Et que Jésus, sans rien dire, pose sur vous son regard et vous aime. Vous voyez dans son regard qu'il y a une qualité de présence, une qualité d'accompagnement, une qualité d'appel, une qualité de miséricorde. Je pense qu'en arrivant, c'est pas une parabole, ça, c'est un récit, hein. Il existe ce jeune homme. En arrivant au ciel, je pense que vous avez sans doute des rendez-vous déjà prévus, mais moi, je veux le croire, ce jeune homme riche. Parce que la suite, c'est un peu décevant. Jésus, une seule chose te manque. Va, vendre tout aux pauvres. Viens sur moi. Le jeune homme riche a entendu ça, et comme il a le grand bien, du coup, il dit, oh là 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 là, je ne vais pas y arriver. Mais Jésus avait dit autre chose. Lui, il a entendu que le cinq verbes, va avant, viens sur moi, donne tout. Mais Jésus a dit, alors tu auras un trésor au ciel. Ce que tu demandes, la vie éternelle, eh bien, si tu veux l'avoir, et déjà, pas seulement au-delà de ce monde, mais déjà quelque peu maintenant, les arbres de la vie éternelle, un acompte, danse. Alors comment tu fais? Eh bien voilà, tu vas passer d'une vie où on cherche à posséder, à accaparer, à une vie où on va donner.
donner avec générosité, donner sa vie, non seulement donner ceci ou cela, oui, ceci ou cela si vous voulez, mais aussi donner sa vie finalement, son temps, ses forces. Mais, justement, cet homme, il a besoin encore d'un pas de conversion, parce qu'il est encore trop pris par les choses de ce monde, et même s'il demande « que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en partage ?» quand on lui dit le chemin, il hésite. J'aimerais bien aller le voir, ce jeune homme riche, l'interroger parce que je suis persuadé. Après il part tout triste, on me dit. Mais sa tristesse l'a fait travailler. La parole de Jésus, surtout le regard de Jésus posé sur lui, l'ont marqué d'une manière décisive. Il nous faut du temps pour nous convertir. Et tout ne vient pas comme ça. On peut très bien demander à entrer dans un groupe de préparation à la confirmation, et puis parfois on est un peu hésitant, parfois c'est un peu les parents qui nous ont poussé, ou des amis. Et puis, il y a une année qui se passe de préparation. Et il y a des choses qu'on n'imaginait pas, qu'on n'aurait pas écrites, qu'on n'aurait pas dites au début, et que finalement, à la fin... Hier, j'ai rencontré un groupe de confirmants qui seront confirmés dans un mois. Et parmi eux, il y avait un garçon qui, dans sa lettre, vous savez, les confirmants écrivent tous, parfois il y en a qui l'ont envoyé un peu en retard, enfin ils l'ont envoyé quand même. Ils écrivent tous une lettre à l'évêque pour demander la confirmation. Parfois c'est un petit peu superficiel, mais parfois il y a des choses profondes. Et bien, ce jeune que j'ai vu hier, dans sa lettre, il disait, moi c'est mes parents qui m'ont poussé, c'est ma maman, et j'aime mes parents, c'est beau ça. Il l'écrit d'ailleurs, 16 ans. Et donc je vais lui faire plaisir, je fais ma confirmation. Mais en fait, moi, pour tout vous dire, je n'ai pas grand-chose à faire. Alors j'ai lu ça, puis j'ai dit, moi je ne peux pas le confirmer dans ce cas-là. Donc je lui ai demandé à le voir, à parler. Je lui ai dit, t'as vu ce que t'as écrit? T'as été honnête, tu as dit les choses comme elles sont. Moi je suis honnête, je crois ce que tu dis. Donc je ne vais pas le confirmer puisque tu dis que c'est juste pour te faire plaisir à tes parents. Ça c'est bien. Alors il me dit, mais en fait j'ai écrit ça, il a écrit ça en juin. J'ai écrit ça en juin, maintenant je me rends compte, après on a fait telle chose. Faut que je réfléchisse, mais peut-être c'est plus seulement pour faire plaisir à mes parents. Ben, le jeune Henri, c'est comme ça. Il demande une chose, on lui dit, et puis finalement on lui dit. Il n'y arrive pas. Mais je suis persuadé qu'après, il est arrivé. On a tous des étapes à vivre comme ça. S'il y a une préparation à un sacrement ou la confirmation, c'est précisément parce que c'est important et qu'on ne peut être prêt, pas complètement prêt. On peut venir en courant et dire à Jésus, oui, je vais recevoir l'Esprit Saint. Et puis en même temps, et puis avec la préparation, on découvre davantage ce que ça veut dire, recevoir l'Esprit Saint, vivre sans l'aide, en suivant Jésus, dans la puissance de l'Esprit Saint. Et à ce moment-là, le don qu'on a pu recevoir, auquel on aspirait, qu'on a pu recevoir, finalement, petit à petit, on va vraiment vivre. Alors, il ne faut pas se laisser impressionner par cette attitude du jeune homme riche qui part tout triste, qui a du mal à quitter les richesses de ce monde pour s'attacher de manière plus décisive au trésor qui est dans le ciel, dans la vie éternelle. Il y a un temps de maturation et de réponse, de croissance. Et peut-être que dans un an, dans 10 ans, vous vous souviendrez, parce que vous avez retrouvé la feuille de champ, le livre, je ne sais pas quoi, et vous vous souviendrez de votre confirmation. Et vous direz, ah, oui. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus fort. Aujourd'hui, maintenant, je peux regarder le Christ en face, le Christ qui m'a regardé et qui m'aime. Il ne s'agit pas seulement de se préparer à la confirmation, ni de la recevoir, mais il s'agit d'en vivre. Ce n'est pas un aboutissement, c'est une piste de décollage pour un super voyage vers la vie éternelle, dans l'Esprit Saint. La confirmation, comme tout sacrement, c'est une participation nouvelle à la vie de Dieu. En l'occurrence, recevoir l'Esprit Saint. Au baptême, déjà, on reçoit l'Esprit Saint. On est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais on reçoit, c'est vraiment comme un enfant qui reçoit, à qui on donne, parce qu'il est encore faible, petit, limité. La confirmation, on reçoit pour pouvoir se lever et témoigner de ce qu'on a reçu. On voit bien que c'est là ce sacrement qui nous ouvre à une vie plus responsable, une vie où on n'est pas seulement celui qui est comme un enfant, qui reçoit gratuitement et de manière heureuse, certes, mais aussi celui qui est déjà plus grand, sinon adulte dans la foi, et qui va communiquer ce qu'il a reçu. Vous savez, en matière spirituelle, ce que l'on ne donne pas, on ne peut pas garder. Matière matérielle, si je donne ce beau lectionnaire de la paroisse, ben je l'ai plus. Moi, c'est la paroisse qui l'a plus. Pas que les paroissiens se cotisent pour acheter un lectionnaire. Mais en matière spirituelle, si je ne donne pas ce que j'ai reçu, fumez, plus rien. Vous allez recevoir l'Esprit Saint, vous les confirmant. Non pas pour posséder cette richesse spirituelle, mais pour pouvoir en vivre et en témoigner et le donner à travers un témoignage que vous faites, à travers la vie dans l'ordre de la justice et de la charité, dans ce monde, là où vous êtes, selon votre vocation propre, selon votre âge et ce que vous vivez au lycée, au collège, selon ce que vous êtes, ce à quoi vous êtes invité. Et donc, c'est ce témoignage qui va vous permettre de vivre pleinement et de garder, de vous enrichir de cet Esprit Saint que vous recevez pour participer d'une manière vraiment vitale à cet aspect de la vie de Dieu, puissant à l'Esprit Saint, une force d'en haut pour nous faire sortir d'une timidité, d'être apeuré, de ne pas oser, de ne pas savoir communiquer notre foi et en vivre. Un sacrement, c'est toujours un don gratuit. Ce n'est pas notre mérite propre qui fait qu'on peut recevoir un sacrement. C'est vraiment l'amour gratuit de Dieu. Il vous regarde et il vous aime, et il se donne à vous. Vous pouvez lui dire, moi j'ai quand même bien travaillé sur une préparation, on a quand même bien fait les choses. Vous pouvez dire, peut-être que j'aurais pu faire un peu plus. Mais n'empêche que ce n'est pas à l'aune de ce que vous avez fait que Dieu va se donner à vous, c'est à l'aune de son amour. Son amour est total. Il se donne totalement, pleinement. Vous seriez préparé pendant 10 ans, ça ne ferait pas un Esprit Saint plus grand dans vos cœurs. Un don gratuit et fidèle de Dieu. Une fois confirmé, toujours confirmé. Parfois nous avons des hésitations, parfois nous détournons, nous changeons le chemin parce que je ne sais quoi nous tombe dessus et qui nous éloigne de Dieu, au moins pour un temps. Mais si nous revenons, inutile, même après s'être proposé à la foi, inutile de recevoir à nouveau la confirmation. Parce que Dieu, de son côté, est toujours fidèle. Et c'est ce qui nous met dans une grande confiance. Parce que même si nous pensions que sous un angle ou sous un autre, notre vie est quand même un peu médiocre, on peut se tourner vers Dieu et nous dire, Seigneur, toi qui m'as communiqué, donné cet Esprit Saint, viens m'apporter à nouveau la force, viens réveiller en moi le don d'Esprit Saint que tu as fait une fois pour moi, pour que je puisse avoir ta force, l'intelligence, la sagesse. Quel était le conseil pour pouvoir décider de ce que je dois vivre et aider éventuellement les autres à en décider eux-mêmes. Un don gratuit et fidèle de Dieu, Dieu qui nous regarde et qui nous marque de son amour. Ça ne veut pas dire que nous sommes passifs en recevant un sacrement. Il y a cette préparation que vous avez vécue. Mais il y a aujourd'hui l'accueil profond dans la foi, dans la prière, avec vos forces, telles que vous savez vivre, de ce don d'Esprit Saint. Parfois, il y a des confirmants qui sont très émus aux larmes. Là, moi, ça me trouble. Mais peut-être que vous n'êtes pas ému du tout. Mais vous avez une décision en vous, c'est ça, vouloir recevoir l'Esprit Saint. Une décision, accueillir le don de Dieu. Quand vous allez recevoir l'Esprit Saint, vous ne tournez pas le don. Vous ouvrez les mains, le cœur, pour que ce don entre en vous, vous transforme, que l'Esprit Saint habite et puisse agir en vous. Ça veut dire réfléchir comment je vais rayonner ce que j'ai reçu, comme on l'a dit, c'est le début de la semaine missionnaire. Le pape, les papes, ça fait plusieurs décennies que c'est comme ça, il y a un mois missionnaire, une semaine missionnaire. L'année prochaine, ce sera un mois missionnaire solennel, parce que le pape François a décidé, pour le 100e anniversaire de l'encyclique de Benoît XV sur la mission après la guerre 14, il a dit, on va faire un mois missionnaire extraordinaire, parce qu'on a besoin de se bouger un peu. C'est habituel chez le pape François. Donc, cette année, c'est la préparation du mois missionnaire extraordinaire. Voilà, une semaine missionnaire. Hein, pour penser aux missions, il y a quantité de jeunes. Il y a plus d'un jeune sur deux dans ce monde qui ne peut pas avoir accès à la confirmation comme vous. Quand je dis plus d'un, c'est même deux sur trois. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je vais faire pour communiquer, rayonner? Quand je vous ai dit, je crois que vous avez dit ça, je suis plus sûr parce que je vois beaucoup de groupes successivement. Est-ce que vous avez invité les jeunes de vos classes ici en disant venez, dimanche, je reçois une confirmation. Alors venez. C'est déjà un premier pas pour rayonner. Du côté du bouddhisme, qu'est-ce que ce truc, la confirmation de quoi, hein? Ben, vous aurez expliqué. C'est l'esprit saint. Mais forcément haut qui vient. Hein? Sans langue de feu, mais bien quand même. Hein? Mais mille autres choses. C'est, rayonner l'évangile, c'est déjà vivre. Déjà au plus près, chez vous, en famille, qu'on vous reconnaisse, que vous défendez. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah ben c'est sa confirmation. Pas par des grandes déclarations d'abord, mais par un esprit de service dans l'humilité. Il faut être comme l'enfant prodigue, comme le jeune homme riche, vraiment choisir un chemin de sainteté. C'est-à-dire, pas se dire simplement, je vis ma petite vie, alors voilà, à Brignais, c'est sympa, tout. Mais ce à quoi je suis appelé, c'est la sainteté. C'est dans les vitraux. La vitraux, mais la vie des saints. La vie du Christ, mais aussi la vie des saints. Hein, dans quelques années, là, il paraît qu'on va refaire le cœur. Hein. Mais dans quelques années, peut-être qu'on va démonter ces verrières du 19e, qui sont certaines très bien, pour mettre les saints du 21e siècle, nés à Brignais. Vous, parce que vous aurez pris au sérieux l'appel de Dieu. Je dis ça, mais c'est Jésus qui dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est le pape qui dit, en mars dernier, il nous a donné une exhortation apostolique sur la sainteté, en disant, mais c'est pas pour faire des choses extraordinaires, des miracles, etc. La sainteté, c'est vraiment vivre de la charité au quotidien, dans la puissance de l'Esprit Saint. C'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour tous. Et puis, ce don de Dieu que vous voulez accueillir, mettre en œuvre, rayonner, prendre un chemin de sainteté de manière décisive, il s'agit aussi de le vivre en s'enracinant dans l'Église. C'est-à-dire, d'une manière concrète. S'enraciner dans l'Église, c'est-à-dire s'enraciner dans la paroisse, dans un mouvement, scoutisme, d'autres mouvements, c'est un monde d'hôtel. Voilà, très bien. Hein. L'aumônerie, dans sa famille, communauté et proche. Vous le dites d'ailleurs dans vos lettres. Ça, ce qui vous a marqué, c'est telle rencontre dans telle communauté où vous êtes allé. Eh bien, vivez ça. Ayez des racines pour que vous ne pas être comme seul à vivre votre foi et à grandir dans votre foi. Vous avez un parrain ou une marraine, et c'est très bien pour la confirmation, mais. Nous tous, nous voulons être quelque peu parents marins, c'est-à-dire témoins de ce que vous vivez, pour vous encourager à vivre jusqu'au bout. Quand on parle de sainteté, de vivre sans l'Esprit Saint, parfois on se dit, mais ça ne jamais, jamais hein, c'est trop. Vous rendez compte. C'est ce que disaient les disciples. Hein. Qui peut être sauvé? Et vous savez la réponse de Jésus. Pour les hommes, c'est impossible. Oh. Ben alors. Mais, pour Dieu, tout est possible. Si vous vous appuyez sur Dieu, si vous confiez à Dieu, si vous le priez, si vous regardez son regard se poser sur vous, tout devient possible. Si vous paraît un peu probable, seulement rêver, voilà que ça devient concrètement possible. Dans l'ordre, non pas de choses extraordinaires qui font que les gens sont éberlués, dans l'ordre de la charité, dans l'ordre de l'humilité, dans l'ordre des valeurs du royaume et la valeur. Créer du royaume, le fruit, c'est le bonheur en Dieu. Alors, heureux en laissant l'Esprit Saint vivre en vous, travailler en vous, pour que vous puissiez et que nous puissions grandir jusqu'à la vie éternelle. Amen.